Voilà, je vais vous dire d'abord ma joie d'être parmi vous ce matin. En regardant les calendriers, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'étais là, c'était presque il y a 2 ans déjà. Le temps passe très très rapidement. Et pour moi, ça a signifié un changement. J'étais à Paris la dernière fois que je suis venu. Maintenant, je suis pasteur à Colmar. Et je viens vous apporter les bonnes salutations à la fois de l'église de Colmar, également vous dire qu'au niveau de notre union d'église, l'association Baptiste, nous continuons aussi à être bien en pensée avec vous et à suivre aussi l'évolution de l'église, de vos besoins. Nous le faisons toujours avec cœur et vraiment c'est une réalité. Je suis reconnaissant de voir l'église qui continue à persévérer dans la marche avec le Seigneur, la communion fraternelle. Vous êtes devenue une église internationale en étant partie très loin à Madagascar et vous avez fait un beau voyage visiblement et même dans le lien fraternel vous êtes les vedettes voyageuses là de notre association, donc on est très reconnaissant aussi pour vous pour tout cela et que le Seigneur continue à vous accompagner donc dans votre marche de chaque jour et avec lui. Alors je voudrais partager quelques réflexions. Vous verrez assez vite se dessiner le thème que je voudrais partager avec vous au travers des lectures que nous avons faites. Je vous invite à lire d'abord au psaume 34, les versets 12 à 15. Psaume 34, les versets 12 à 15. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Puis une parole de Jésus, très connue dans les Béatitudes. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et une parole de Jacques en écho aussi à cette parole de Jésus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a zèle, amer et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jusqu'ici nos lectures. Vous voyez bien les choses se dessiner au travers de ces trois textes et ça rejoint un petit peu les réalités de ce que nous vivons. Pour la première fois depuis des années, nous n'avons pas vécu cette année la fameuse trêve de Noël. Ce temps où autour des fêtes, généralement on essaye d'apaiser les relations, de faire taire les armes, de mettre en parenthèse les conflits pour penser harmonie, joie, bienveillance. Elle est limitée, temporaire, cette trêve, chaque année, mais elle a le mérite d'exister et de rappeler que la paix est un bien précieux et un but à viser. On se souvient que cette trêve de Noël a même réussi, lors de la Première Guerre mondiale, dans une tranchée, à faire taire les canons. Un soir de Noël, des soldats ennemis ont pacifié au chant des cantiques de Noël. Cette histoire très ponctuelle est devenue symbolique et elle nous touche. Mais en cette fin d'année, notre pays s'est embrasé de frustration, de colère, et l'on se rend compte qu'il n'est pas facile de travailler à la paix là où s'installent les frustrations ou les colères, ou là où on a manqué de dialogue et de considération. Et pourtant, la paix, si vous faites un sondage, tout le monde est pour. Elle reste une valeur, un horizon. Elle Même si elle fait cruellement défaut dans le monde si souvent, nous la désirons, nous en avons besoin. Peut-être a-t-elle fait partie des vœux que vous avez formulés à vos proches en ce début d'année, sur les cartes et les messages de vœux. Heureux les artisans de paix, nous disait Jésus. Ils seront appelés fils de Dieu. Et on remarque que cette parole de Jésus va bien plus loin qu'un simple vœu de paix. Elle parle d'œuvrer en faveur de la paix. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une invitation à nous engager en faveur de la paix. Et c'est autour de ces idées-là que je voudrais insister ce matin. On parle de la même réalité, la paix, mais on est sur un autre versant. C'est un peu comme certaines collines qui ont un côté à la pente très douce, très verdoyante, et un autre versant beaucoup plus escarpé. La paix que l'on se souhaite, c'est le côté très verdoyant, très doux, tout en douceur, tout en bienfait. Cette paix dont on a un privilège, le privilège de profiter, et dont on ne se rend même plus compte quand on l'a, tellement ça semble naturel. Mais dès qu'il faut la construire, la gagner ou la rétablir, la paix devient quelque chose qui est beaucoup plus escarpé parfois, d'un peu plus exigeant. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire, à construire la paix, à être ses artisans de paix, à y œuvrer. Et ne pas avoir peur de le faire, car Jésus dit « heureux les artisans de paix », même si peut-être ce côté est un petit peu plus pentu que la pente douce et verdoyante de la paix à laquelle on rêve tous. Jésus nous invite donc à être des artisans de paix, à être de ceux qui procurent la paix, qui font œuvre de paix. Littéralement, c'est « heureux » les faiseurs de paix, les faiseurs de paix. Et on trouve ce même genre de mot pour décrire le métier de l'apôtre Paul, qui était faiseur de tente. Et l'idée d'un travail est donc bien présente. Et pas juste un petit passe-temps occasionnel, mais l'idée d'une œuvre à laquelle on se consacre vraiment, qui demande du temps peut-être, qui demande de l'énergie, de l'attention. Heureux les faiseurs de paix. Et j'aimerais peut-être d'abord souligner ce côté artisanal, ce côté d'implication concrète. On imagine parfois ceux qui procurent la paix comme des gens qui diffusent la paix autour d'eux, par leur seule présence, par leur seule qualité d'être. Et c'est peut-être parfois qu'on se rêve un petit peu comme ça, être artisan de paix, quelqu'un qui diffuse la paix. Vous connaissez peut-être le livre « Le parfum » de Patrick Susskind. Un film a été tiré de ce livre, ça a été adapté au cinéma. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, au XVIIIe siècle. C'était un enfant abandonné, solitaire, qui a réussi à survivre grâce à un atout exceptionnel, un odorat absolument phénoménal et une mémoire des odeurs absolument phénoménale. Il se fait embaucher comme apprenti chez des maîtres parfumeurs. Il apprend et peaufine toutes les techniques de la parfumerie. Mais toute sa vie durant, Jean-Baptiste Grenouille cherche une chose. Il cherche à isoler l'essence parfumée idéale, celle qui diffusera non seulement une bonne odeur, mais la vie, le bonheur, la joie. Il cherche vraiment à trouver cette essence-là. Par des moyens très particuliers, il y parvient. Et il lui suffit alors de mettre quelques gouttes de ce parfum pour qu'à son passage, tout le monde se pâme de joie et de bonheur. Waouh, magnifique! Et c'est parfois qu'on s'imagine être artisan, être pour ceux qui procurent la paix. Quelqu'un qui irradie tellement la paix que finalement c'est communicatif et que c'est irrésistible. On aimerait tellement cela. Jésus, lui, parle d'être un faiseur de paix, dans un sens artisanal, dans un sens beaucoup plus impliqué, où l'on retrousse les manches en faveur de la paix. Le faiseur de paix travaille à la paix, façonne la paix. Il lui consacre de l'énergie. Il lui consacre de l'attention. Il lui consacre des efforts. il lui consacre de la réflexion. Il doit tenir compte de la réalité qui l'entoure, des personnes, des situations, composer avec tout cela pour essayer de travailler à la paix, pour nouer quelques fils de paix là où c'est utile, pour favoriser des espaces pour des relations bienfaisantes. Et c'est ce côté que Jésus souligne. On ne diffuse pas la paix simplement comme ça, par enchantement, mais si on peut dire, il faut mettre la main à la paix. Il faut savoir mettre la main à la paix, y mettre du sien, travailler avec les situations que l'on rencontre. Parfois, il faut mettre plusieurs mains ensemble à la paix, pour travailler à la paix. Mais voilà, Jésus souligne cette idée qu'il y a un travail, un engagement. Et c'est vrai que parfois, le contraste est assez terrible entre le travail laborieux de certains faiseurs de paix et la facilité avec laquelle tout cela peut être détruit. Moi, je pense souvent aux diplomates ou aux groupes qui s'investissent pendant des semaines et des mois parfois à chercher des accords, à trouver des solutions de paix à des situations compliquées et qui voient en un vote ou en un acte extrémiste ou en une manifestation violente leur travail de mois et de mois s'écrouler, être réduit à rien du tout. Ça arrive dans l'actualité, hein. Écoutons ce qui se passe aujourd'hui. Ainsi va la paix. Un équilibre subtil qui apporte un bien immense, mais quelque chose qui est fragile et qu'il faut préserver, sur lequel il faut veiller avec soin. Heureux donc les faiseurs de paix, nous dit Jésus, en utilisant ce verbe « faire ». Alors je me suis interrogé sur d'autres verbes qui pourraient être liés en relation à la paix. Alors, on aime bien la promesse de Jésus qui dit « Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix ». Et ça nous dit combien la paix est un don de Dieu et combien c'est précieux de le recevoir, le bienfait d'une relation retrouvée avec Dieu et d'une sérénité que nous pouvons découvrir dans la confiance en Dieu dans la vie de chaque jour, en nous attendant, comme nous a été dit tout à l'heure, chaque matin, dire « Le Seigneur est là pour me permettre d'affronter ce que j'ai à affronter ». Ça, c'est vraiment le versant doux et bienfaisant de la paix. Mais il y a aussi d'autres verbes, beaucoup plus actifs, qui s'appliquent à l'autre versant, un peu plus escarpé de la paix. Le psaume 34 que nous avons lu emploie deux verbes. Il parle de rechercher la paix et il parle de la poursuivre. Rechercher la paix, ça exprime la vigilance nécessaire quand nous sommes dans une situation donnée. Il y a tellement d'attitudes qui nous viennent naturellement et qui sont tout le contraire de la paix. Le psaume qui parle de rechercher la paix nous rappelle que la langue, parfois, elle peut assez vite aller vers le contraire de la paix, dire du mal des autres. Elle parle de ses lèvres qui disent le mensonge. Elle nous invite à nous écarter du mal pour faire le bien. Et donc, rechercher la paix dans ce contexte, c'est veiller encore et encore à avoir des bonnes attitudes dans des choses aussi concrètes que nos paroles, nos actes, qui favoriseront la paix, qui favoriseront l'harmonie des relations. Rechercher la paix. Par-delà, peut-être certaines attitudes qui pourraient, sur lesquelles il faut être très vigilant. Et puis, poursuivre la paix, nous dit également ce psaume 34. Recherche et poursuit la paix. Ici, le verbe poursuivre ne doit pas être compris comme l'idée qu'on va toujours courir après la paix sans jamais pouvoir l'atteindre. Mais poursuivre la paix, c'est plutôt l'idée de la persévérance sur la voie de la paix, même si le contexte n'est pas trop favorable. Le psaume 34 a été écrit pendant la première partie de la vie du roi David, avant qu'il ne devienne roi d'Israël. Et c'était une période où il était poursuivi par Saül sans avoir rien fait de mal. Il était un fugitif, traqué, trahi, souvent par des opportunistes. Et c'est dans cette période-là, difficile, heurtée de sa vie, que David a poursuivi la paix et qui nous invite à poursuivre la paix aussi. Y persévérer sur les chemins de la paix, même si autour de nous, c'est pas très favorable. Et on sait que David a fait cela. Deux fois, il a épargné Saül alors qu'il aurait pu se venger. Et on le pressait de le faire. Il a poursuivi la paix, y compris dans ces circonstances-là. Il a veillé à rester droit en parole et en acte. Et l'apôtre Pierre reprend ce texte du psaume 34 et l'applique aux chrétiens dont certains subissent une vraie opposition. Et juste avant de citer le texte du psaume 34, il dit « Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction de Dieu. » Donc poursuivre la paix, c'est aussi veiller sur nous, y compris quand les circonstances sont pas très favorables, pour favoriser malgré tout la paix, lui donner des chances pour l'avenir. Oui, ça nous rappelle combien la paix est délicate, fragile, nous l'avons dit. Une parole blessante peut fissurer d'un coup une harmonie patiemment construite. Un mensonge, une trahison peuvent détruire une relation de confiance et de paix qu'il a fallu bâtir pendant des semaines ou des mois ou des années. La paix est une belle fleur, mais elle est délicate. Et il nous faut poursuivre la paix donc, y veiller vraiment, encore et encore. Un autre verbe employé en relation avec la paix est le verbe « semer ». C'est l'apôtre Jacques qui le dit, nous l'avons lu, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Alors ce texte nous rappelle d'abord qu'on ne peut pas séparer paix et justice. Par la justice, on veut dire ici une attitude juste selon Dieu, selon ce que Dieu demande. Et si on veut poursuivre la paix, il s'agit de vraiment avoir ces attitudes de justice qui correspondent à tout ce que Dieu demande. Et Jacques vient de parler de cette sagesse de Dieu qui est modérée, pure, pacifique, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Et c'est avec cela qu'il dit « le fruit de la justice est semé dans la paix ». Et ça nous invite vraiment à semer, une belle qualité de paix, une belle qualité de paix riche de bien des choses, de cette miséricorde, de ces bons fruits, de cette vérité, de cette authenticité, toutes ces choses-là, essayez de les mettre justement dans des relations constructives. Nous sommes invités à semer et à semer une belle qualité de paix. Et ça nous rappelle que la paix sera un peu la résultante de ce qu'on aura apporté dans la relation. Quand on sème quelque chose, le fruit que l'on récolte dépend de la nature de la semence. Et puis nous sommes invités donc à essayer de semer de belles choses dans nos relations, d'injecter de belles choses comme ce texte nous y invite dans les relations pour qu'un fruit riche de paix puisse vraiment en résulter. Lorsqu'on aura apporté beaucoup de choses dans une relation, cette relation bénéficiera d'une paix, d'une harmonie de belle qualité. Si on bricole les relations un peu superficiellement, on aura une paix un peu bricolée, un peu superficielle aussi. Oui, l'invitation vraiment à semer dans nos relations des choses qui puissent être riches, qui puissent être riches. Mais semer, c'est aussi donc savoir accepter que parfois on doit faire des tout petits gestes. Quand on commence une semence, c'est pas tout de suite les grands fruits. Ça veut dire aussi un petit peu d'incertitude ici ou là. On ne sait pas forcément ce qui aboutira de ce qu'on essaye de faire de bien. Mais vraiment, il vaut la peine de faire ces semailles, Et il y a là quelque chose dont on pourra se régaler après et tirer un grand bienfait. Plusieurs verbes donc. Rechercher la paix, poursuivre la paix avec persévérance, semer la paix. L'invitation en tout cas à faire œuvre de paix est très ouverte. Jésus ne l'a pas limitée. Elle s'applique à toutes nos relations. Quand Jésus dit « heureux les artisans de paix », il parle de toutes les relations que nous sommes appelés à avoir, que ce soit les relations avec nos proches, nos plus proches, notre famille, notre conjoint, nos relations au travail, nos relations au sein de l'Église ou dans des situations plus larges dans lesquelles nous pouvons nous impliquer. On peut dire aussi que cette invitation à être artisan de paix se concerne des relations à différents niveaux d'harmonie. Je suis appelé à être artisan de paix là où il n'y a pas de conflit. Dans un travail qu'on pourrait dire de prévention ou de préservation de la paix. Là où il n'y a pas de conflit, il est important de continuer à travailler à la paix, de consolider des relations harmonieuses, des relations de confiance, des relations de vérité. Et c'est probablement là que c'est le mieux de le faire, parce que là, les relations sont encore vraiment intactes et il vaut la peine d'y travailler. Et c'est pourquoi les choses que nous faisons très naturellement lorsque nous sommes en bonne relation, pour consolider ces choses-là, comptent énormément. Et puis, il peut y avoir les endroits où les relations sont un peu plus abîmées et où c'est un peu plus exigeant d'être artisan de paix. Et on sait qu'alors là, vouloir continuer à être artisan de paix voudra dire souvent savoir faire le premier pas, accepter de faire le premier pas plutôt que d'attendre toujours que l'autre vienne, savoir s'exposer un peu, ça demande beaucoup d'écoute, intégrer l'autre, sa pensée, ce qu'il est, accueillir, lui faire une vraie place dans notre pensée. C'est pas facile d'intégrer la pensée de l'autre dans ma pensée. C'est si simple de voir les choses à partir de mon petit point de vue. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je trouve que toutes ces demandes, ces revendications très exacerbées autour de moi et de moi, de ma petite vision des choses, nous rappellent combien c'est un peu compliqué. Intégrer l'autre, intégrer la pensée de l'autre, les besoins de l'autre, accueillir l'autre dans ma vision. Ça rend les choses un peu plus complexes, mais vraiment plus riches et surtout plus réelles. Faire le premier pas, accueillir. Mais en même temps, ne pas accueillir n'importe quoi. La juste paix, celle qui dure, a besoin de se fonder sur ce qui est juste, sur ce qui est vrai, mais avec une attitude d'honnêteté toujours, d'équité, de bienveillance. Je relis ce texte de l'apôtre Jacques, je le trouve tellement fort. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix ou par les artisans de paix. Alors une fois qu'on a dit tout cela, quelles résolutions concrètes peuvent découler pour nous de cette invitation de Jésus? Je vous en propose trois. Première résolution, c'est être humble artisan, mais y veiller. Accepter que je suis un humble artisan de paix, mais dire ça, je veux vraiment le faire. Je n'ai pas à me rêver comme le grand pacificateur ou réconciliateur universel. Ma place est celle de l'humble artisan, là où je me trouve, et dans mes propres attitudes relationnelles. Humble artisan dans ma famille, pour apporter la petite parole de paix ou d'éclaircissement des choses qui permettra d'éviter que des choses partent en vrille. Humble artisan de paix à mon travail, pour essayer de semer un petit peu de bonne entente, de bonne disposition ensemble, si on le peut. Humble artisan de paix dans l'Église, pour apporter ma pierre à l'harmonie que nous avons en Christ. Humble artisan de paix lorsque je suis dans une équipe de travail pour être quelqu'un, oui, qui apporte sa contribution dans un bon esprit. Accepter d'être humble artisan, mais y veiller. Ça fait tellement de différence. Ça fait tellement de bien. On en a tellement besoin. Deuxième résolution, peut-être, c'est rester ferme et constant. Veiller à tenir bon pour la paix. à tenir bon pour les choses qui vont être constructives. Alors je vais ici vous parler de quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup d'habitude dans les messages. C'est le chanteur de reggae Bob Marley. Deux jours, il devait donner un concert pour la paix. Et deux jours avant ce concert pour la paix qu'il devait donner en Jamaïque, Bob Marley avait été victime d'une tentative d'assassinat à son domicile par un groupe d'extrémistes. Il a reçu une balle dans un bras, une dans la poitrine, cinq dans la cuisse. Le jour du concert, il est là. On lui demande « Mais pourquoi tu es venu ? Pourquoi ?» Et sa réponse, je la trouve très belle, il dit « Les personnes qui veulent rendre le monde plus mauvais ne prennent jamais de congé. Pourquoi en prendrais-je » Ça, je trouve, c'est quand même quelque chose de fort. De dire, voilà, il y a des gens qui, parfois, sont prêts à faire tout des tas de choses qui vont pas forcément rendre le monde meilleur. Et ces gens-là, ils prennent jamais de congé. Est-ce que nous, on prendra des congés par rapport au fait de dire, on veut être constructif. Et je trouve que c'est une pensée à méditer. On voit tellement de facilité pour s'aborder, pour fragiliser ce qui apporte la paix. Pas de congé. Mais que nous aussi, nous puissions ne pas prendre de congé pour le bien, pour ce qui est constructif. Et je trouve que, voilà, dans notre contexte aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend tous les jours, on est parfois un peu démunis. Comment est-ce qu'on peut répondre à tous ces besoins qui s'élèvent de partout dans notre pays? Peut-être qu'on peut se dire, mais cherchons en tout cas, nous, dans les domaines qui sont les nôtres, à ne pas prendre de congé pour ce qui est bien. C'est déjà une assez bonne réponse au climat ambiant. Cherchez à ne pas prendre de congé pour ça. Voilà la petite leçon de notre ami Bob Marley ici. Restez ferme et constant. Et puis troisièmement, cultivez aussi les ressources qui nous permettront d'apporter quelque chose de la paix. Un penseur des premiers siècles, un des pères de l'Église, disait « On ne saurait offrir à un autre ce qu'on ne possède pas soi-même. » Et l'apôtre Jacques nous rappelle aussi que le fruit de la paix est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Et ça nous rappelle qu'on ne pourra jamais travailler à de bonnes relations, à être constructif, si nous-mêmes nous ne sommes pas habités par la paix, si nous-mêmes nous ne sommes pas pacifiés intérieurement, si nous-mêmes nous ne recevons pas de Dieu les ressources de la paix intérieure. Et ces ressources de paix, nous les recevons aussi dans notre relation avec notre Dieu, qui se découvre, qui se reçoivent en recevant cette paix justement que le Seigneur Jésus veut nous donner. Ces ressources de paix, nous les recevons en acceptant le pardon, la réconciliation avec Dieu réalisée en Jésus-Christ et en mesurant ce que cela signifie vraiment pour nous. C'est vraiment en cultivant la présence de Dieu que le Seigneur nous deviendra aussi sensible comme source de paix. Et Paul parle même d'une paix qui dépasse toute intelligence et qui peut nous habiter. Laissons donc Dieu nous travailler intérieurement, recevons de lui jour après jour ces ressources intérieures qui nous permettront vraiment de devenir artisans de paix. La paix intérieure, dans la perspective de la Bible en tout cas, n'est pas une paix nombriliste simplement centrée sur notre bien-être. Mais c'est une paix qui, lorsqu'elle nous est donnée, va pouvoir devenir relationnelle, Une paix qui se reçoit auprès de Dieu, une paix appelée à se donner, à rejaillir en attitude constructive dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui peut nous motiver sur cette voie de la paix? Or, il y a d'abord les beaux fruits de la paix, bien sûr. Les beaux fruits de bonheur, des relations là où règne l'harmonie, la confiance. Et c'est bon de vivre ce bonheur là où il les est donné. Et ça vaut la peine d'y travailler, et d'y travailler en goûtant ce que cela signifie. Ne nous habituons jamais à la réalité de la paix. Je dis souvent que la paix, ça fait pas beaucoup de bruit. Mais dès que c'est plus là, ça fait un bruit immense. Et donc, goûtons les beaux fruits de la paix pour nous motiver toujours plus à travailler à des relations ainsi harmonieuses. Mais Jésus nous oriente aussi vers une autre perspective. Heureux les artisans de paix, dit-il, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans quel sens comprendre cela ? Il ne s'agit pas de dire que l'on devient enfant de Dieu parce que l'on a fait œuvre de paix. Nous savons que la seule base pour devenir enfant de Dieu, c'est de lui ouvrir notre vie, c'est de reconnaître notre besoin de lui dans notre vie, de reconnaître notre besoin de son pardon et de recevoir ce pardon de Jésus-Christ. Et Jésus a dit à tous ceux qui croient en mon nom, est donné le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est l'occasion de me rappeler que nous assurions chacun que nous avons bien fait cette démarche essentielle pour recevoir la paix la plus profonde, la paix du cœur, la paix d'une relation restaurée avec Dieu. Mais Jésus, dans ses béatitudes, parle à ceux qui sont déjà ses disciples. Et lorsqu'il dit « Vous serez appelés fils de Dieu », il parle à ceux qui sont déjà appelés fils et filles du Seigneur par leur foi personnelle. Et c'est donc beaucoup plus l'idée de ressemblance à notre Père Céleste qui est en cause. Comme quand on dit de quelqu'un, c'est vraiment le fils ou la fille de son père ou de sa mère. C'est aussi l'idée de remplir notre vocation de fils. Vous serez fils de Dieu, vous remplirez votre vocation de fils. Voilà à quoi nous sommes appelés. En tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu est un Dieu de paix. Cette idée aussi, c'est encore l'idée de participer à l'œuvre de Dieu. Vous serez comme des fils et des filles qui œuvrent à ses côtés, participant à ses projets de paix. Vous serez fils et filles de Dieu comme partenaires de ce que Dieu réalise. Vous pourrez devenir un peu les mains de Dieu dans ce monde pour apporter la paix. Votre œuvre de paix ne sera jamais une œuvre solitaire, mais une connivence avec le Dieu de paix, une œuvre à ses côtés où vous ferez sa joie. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est plein, c'est riche. Et nous savons que Jésus, le Fils unique du Père, en venant vers nous, a été celui qui procure la paix et qui le fait largement. Il a été l'artisan de paix avec un A majuscule, au sens le plus plein du terme. Il a été l'artisan de notre salut. Il a établi un pont sur le plus effrayant des abîmes, celui qui nous séparait de Dieu. Pour cela, il a fait le premier pas. C'est lui qui est venu. C'est pas nous qui l'avons cherché ou appelé. C'est lui qui est venu. Il a surmonté l'inimitié pour nous réconcilier avec Dieu. Il a tout pris sur lui pour rendre possible la relation avec notre Dieu, jusqu'à prendre sur lui la condamnation que méritaient nos fautes. Ça, c'est ce que lui seul pouvait faire. C'est lui qui est notre paix. Et nous qui étions loin, nous pouvons déjà désormais devenir proches. Nous sommes en paix avec Dieu si nous l'accueillons dans notre vie. En Jésus-Christ, mort et ressuscité, Dieu nous a montré à quel point et à quel prix il veut être notre paix. Et cette paix, nous le savons, elle englobe la vie présente et la vie éternelle. Car viendra le jour où le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Et en parlant de cette nouvelle Jérusalem que le Seigneur prépare auprès de lui, et dont nous sommes déjà citoyens si nous appartenons à Dieu, le prophète Ésaïe affirme « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi, Seigneur, je vous consolerai. Oui, vous serez consolés, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. » Notre Dieu parle de paix à ceux qu'il aime. Un jour, nous le savons, la justice et la paix s'embrasseront. La vérité germera de la terre. C'est ce que dit le psaume 85. Alors en attendant ce jour, et dans la perspective de ce jour. Eh bien, heureux les artisans de paix. Heureux serons-nous si nous prenons part à cette construction laborieuse, artisanale, mais si belle, de belles relations, de relations harmonieuses. Nous serons alors appelés fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse chacun.